Bonjour à tous, merci d'être là. Nous avons un petit peu de retard, veuillez nous en excuser. Nous allons être un petit peu pressés parce que Yann Fabre a des obligations impératives à midi, des obligations de direct sur France Culture, donc nous allons être obligés d'être un petit peu concis. Bien évidemment, ça reste un débat avec vous, le public, donc si vous avez des questions courtes, vous n'hésitez pas à vous lever le doigt très très vite, de manière à ce qu'on puisse libérer Yann Fabre pour midi. En deux mots, le programme, Yann Fabre, Karine Zaporta, nous allons parler de cycle d'orgue et nous recevrons aussi Marina Abramovitz. Donc on commence tout de suite, Yann Fabre, bonjour. Vous revenez sur cette tribune pour parler de Je suis sans dans la cour les 15, 16 et 17 juillet. On se souvient de la création de ce spectacle au Festival d'Avignon 2001. Il était question d'une reprise en 2002 et tout le monde sait ce qui est arrivé en 2002. Vous le reprenez finalement cette année. Je voulais savoir si ce spectacle-là avait une importance particulière dans votre travail, si c'était le début d'un cycle sur les humeurs, les liquides, et si c'était le premier épisode d'une série dont l'histoire des larmes pourrait être un deuxième épisode.
The first part of a cycle, I'm busy with body liquids since 78, but it was the first time the Cour d'Honneur. It was a fantastic experience, and I learned a lot from this. And now for this, now for the retake, it's we reworked the piece. There's a part of new cast. You know how it goes with the new cast. They ask me questions, some new dancers. We restaged the piece, I rewrote the piece, part, I did some coupures, so I think it's even a better version than in 2001.
Non, en fait, on ne peut pas vraiment dire que ce soit la première partie d'un cycle, puisque je m'intéresse au liquide corporel depuis 1978 et je travaille dessus. Mais je dois dire que c'est la première expérience d'une création théâtrale sur ce thème. Et là, il s'agit d'une recréation, et donc nous avons retravaillé avec une nouvelle distribution, de nouveaux comédiens qui posent de nouvelles questions. Nous avons retravaillé la mise en scène et même l'écriture. Et je pense que la version que nous allons présenter est encore meilleure que la première.
Elle est très différente.
Je dirais oui pour à peu près 30% du spectacle.
Mais ça reste un conte de fées médiéval.
Oui.
Quand vous dites qu'il y a une nouvelle distribution, quelle est dans votre processus de travail la part de création que vous laissez aux comédiens?
My actors and dancers, or in that sense, their essence, they're the color and the glance of all my productions. So that means they with their intelligence and with their demanding what they need on stage, they, particularly with the new cast now, they change things, and for the better, because theater is based on humans and individuals, so this dialogue helps me a lot. Plus that I think a theater piece is not a wash machine, it's not a product, so it's a life form, it's life art, so it's always breathing and asking questions, fundamental questions about what's happening today in the world, but also how I have to approach this today with my body, with the experience I had already as an actor, or as a performer, or as a dancer. So it's an ongoing, continuous work.
En fait, les acteurs et les danseurs constituent l'essence même de mes spectacles. Ils représentent la couleur, l'éclat. Et c'est avec leur intelligence et leur exigence que je travaille. Et surtout avec cette nouvelle équipe, nous avons changé la pièce, comme je vous l'ai dit, pour le mieux. C'est un c'est une pièce qui est, c'est un spectacle qui est fondé sur les humeurs du corps, les liquides, et donc ce sont les humeurs de chaque individu qui sont mises en scène d'une certaine manière. Il ne s'agit pas donc d'un produit comme une machine à laver, c'est un spectacle vivant, c'est une production vivante qui respire, qui se pose des questions sur l'état actuel du monde, et nous travaillons aujourd'hui avec le corps de ces acteurs et leur expérience de leur corps comme comédien. Et en fait, c'est un spectacle qui est toujours en cours, c'est une sorte de processus.
Mais vous-même, est-ce que vous avez en 4 ans évolué sur l'analyse, la pensée du corps? À l'époque, vous parliez d'un corps futur, pour que vous exploriez l'idée d'un corps futur.
In that sense, no. Essentially, all my work, my visual work, my stage work, my writing is about, in a sense, defending the human body and creating a kind of a future body to survive as a human being.
Non, en fait, tout mon travail sur la scène, tout mon travail plastique et d'écriture consiste à défendre le corps humain et à créer un nouveau corps.
That's all.
That's all. That's already a lot. Busy with this.
Eh bien, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup de travailler là-dessus.
Est-ce que vous avez évolué en 4 ans ou non? Ça reste la même obsession et vous travaillez toujours avec les mêmes matériaux, même si vous changez de comédien.
I mean, it's. I mean, in a sense, when the body is the object and the subject of your work, you research in a social way, philosophical way, in a political way, in a physical way. It's a lot. I mean, it's all, every day these new questions are raising, how you deal with these things. I mean, the brain is an incredible planet. We travel to Venus, but we're living with an organ we do not understand. So to try to grasp this, how the brain functions, how the brain reacts, how this body reacts to the memory of the brain, to the memory of the body, this evolution, this dialogue, this duality, it's an immense research.
En fait, lorsque l'objet de notre recherche est le corps, cela signifie que nous couvrons absolument tous les champs de la recherche sociale, politique, physique, et c'est un travail énorme qui nous oblige à nous poser de nouvelles questions chaque jour. Vous savez, lorsque l'on réfléchit aux productions du cerveau, le cerveau a une palette extrêmement large, puisque l'homme est capable de voyager jusqu'à Vénus, mais il y a beaucoup de choses du monde d'aujourd'hui qui ne comprend même pas. Donc, essayer de comprendre, de saisir comment fonctionne la mémoire, cette évolution qui est contenue dans le cerveau, cette dualité, demande un travail très, très approfondi et très ardu.
L'heure tournant, je vais voir s'il y a des questions dans la salle, mais auparavant, je voudrais juste vous poser une question qui serait la question presque posée aux marathoniens que vous êtes obligés d'être ici à Avignon, puisque la dernière de l'histoire des larmes dans la cour d'honneur, c'est ce soir, et vous commencez, je suis sans, le 15. C'est presque un principe d'alternance que vous imposez à votre troupe, à vos comédiens. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes habitué à faire, qui est assez simple, ou c'est une grande exigence pour vos comédiens, ce passage d'une pièce à l'autre? Comment vous avez pu d'ailleurs travailler sur les deux en même temps?
It's to be honest, I like it. It's a luxury. I like to be sometimes to be away from the outside world and to only be busy with my work, what I'm doing now, day and night. Talking about it with people like you, but also talking about it with my actors, because every day we have rehearsal in the court, every day we question, we have every day a long pre-talk, a rehearsal from 3 hours, an after-talk. So I like it sometimes to be so focused into almost not knowing what's happening in the outside world.
Honnêtement, je dois vous dire que je l'apprécie beaucoup et c'est presque un luxe que je peux m'offrir. Je suis très contente de pouvoir me retirer du monde extérieur et de me consacrer entièrement à mon travail. Éventuellement, de parler avec des gens comme vous du travail que je fais, puisque nous répétons tous les jours. Nous avons un peu une discussion avant la répétition, puis nous nous retrouvons après. Et je dois dire que c'est une occasion que j'aime énormément, puisque ça me donne la possibilité de me concentrer absolument et de justement m'extraire du monde extérieur.
And it's also you confronted with your company, and it's also very nice to have, for example, now with L'Histoire de l'Arme, the reviews in France were very, very bad, and it's a good, always a very good exercise with the company. You see then how the company functions, how they believe in the work, how they go for the work, and then you see also that the piece itself and the actors and the dancers, they are very souverain. And you see this also, those performers, the applause was always good, the response in the public and is quite very good concentration in the house, even after very bad reviews. And that means there's a kind of sincerity into the work and with the actors and the dancers that I think makes the work even more essential.
Oui, et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir travailler avec la troupe, avec la compagnie, et d'être confronté à de nouvelles situations qui sont souvent difficiles à gérer. Et on voit combien les acteurs fonctionnent ensemble comme compagnie et combien ils croient en leur travail. Et en fait, dans cette pièce, les acteurs et les danseurs, d'une certaine manière, sont souverains. Et de ce fait, la réponse du public est très bonne. Il y a une réelle sincérité de la part des acteurs et des danseurs de tous les toute l'équipe, et je pense que le travail, la pièce elle-même en est enrichie.
Yann Fabre, il est presque midi. Y a-t-il des questions à propos de Je suis sang, ou éventuellement des interrogations sur l'histoire des larmes qui pourraient rejaillir sur Je suis sang? Monsieur, il y a deux questions là. Question rapide, si possible.
Monsieur Fabre, avez-vous vu le spectacle de Madame Abramovitz? Par chance, je l'ai vu avant-hier soir, et hier soir, j'ai vu le vôtre dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et ma question est simple. Faites-vous une certaine relation, un rapprochement entre le spectacle de Madame Abramovitz et le vôtre, notamment sur le thème de la performance dont les humains sont capables?
Yes, of course, the first is a relationship with Maria Abramovic, because we created 6 months ago a duo performance in Palais de Tokyo. We know each other for 20 years, and to be honest, as a young artist, when I was 17, I was even influenced by her work, what she did together with Julia. I think she's a very important lady in performance art, and I think she can give with her work here, a very good insight about the difference and the tradition of performance in contrast with the tradition of theater.
Oui, bien sûr, il existe un lien entre mon travail et celui de Marina Abramovic. D'ailleurs, il y a 2 mois, nous avons créé une sorte de travail en duo au Palais de Tokyo. Et il y a 20 ans que je la connais, et quand j'avais 17 ans, j'étais déjà très influencée par son travail. Je pense qu'il est extrêmement important dans l'univers de la performance, et justement le fait qu'elle puisse se produire ici va permettre de mieux comprendre la différence qu'il y a entre l'art de la performance et l'art du théâtre.
Monsieur avait une autre question.
Il y a 6 mois, vous avez présenté au Théâtre de la Ville à Paris en décembre The Crying Body, qui était, si j'ai bien compris, un état préparatoire du travail actuel, hein, une étape de travail. Ça a été accueilli de façon assez mitigée. Pour moi, c'est une pièce absolument sublimissime, où elle a été attaquée très très violemment par un peu tout le monde. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que pour lui c'est du passé? Est-ce que c'est comment en peinture, ce sont des dessins préparatoires et des brouillons finalement qu'on peut laisser dans un coin? Est-ce que ça sera une œuvre un peu maudite, hein, dont parce que pour moi, qui suis le travail depuis 15 ans, c'est quand même une œuvre importante. Voilà, donc c'était un peu le statut de cette pièce. Est-ce que pour lui, elle est bâclée, comme a dit le Théâtre de la Ville, ce qui me semble un peu idiot, excusez-moi de parler comme ça. Alors, l'autre question, c'est la responsabilité de la presse. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, avec le Monde et d'autres, ou Libération, je ne sais plus, que le leader d'extrême droite de Flandre a utilisé un article du Figaro assez stupide, enfin encore, excusez-moi de parler comme ça, pour attaquer cette pièce. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité que non plus, qu'on n'ont pas les journalistes dans ce qu'ils écrivent? Parce que c'était pas véritablement une critique qu'on peut discuter, mais c'était plutôt d'une attaque assez haineuse et souvent fausse en plus, avec des choses factuellement fausses. Voilà.
First of all, we have to be. I mean, first of all, I work almost 3 years on History of Tears, writing the text, preparing in different master classes. the equivalence of being an artist and working on something for 3 years, or somebody who sees one night and writes his article in 1 hour, it's incomparable. So you cannot be angry for this. You have to forgive this. As an artist, you have to accept this. I mean, you're creating and you're showing your work, and I think people are free to react to whatever they want. And it's left or right, I don't care. and your question.
Maybe this first?
La première question?
No, I said maybe this first?
Yeah, okay. En fait, tout d'abord, je voudrais dire que j'ai travaillé depuis 3 ans sur l'histoire des larmes. Je travaille dessus depuis un certain temps. Et j'ai donné toutes sortes de masterclass sur cette pièce. Et je pense qu'il y a une très grande différence entre un artiste qui travaille sur une œuvre pendant 3 ans et quelqu'un qui, en une nuit, écrit un article. Et sous l'effet de la colère, ça n'est pas comparable. Je comprends très bien que on n'aime pas et qu'on puisse réagir favorablement ou défavorablement. Je crois que comme artiste, on ne peut pas se mettre en colère. On doit pouvoir comprendre et pardonner. Et je pense que il faut que toutes les réactions puissent être exprimées.
About crying body. for me, every piece that I make is, in a sense, a door to a new piece. So, to be honest, not one single piece is finished. It's always a process of working and thinking. And the only thing that for me was good to create Crying Body, and I'm glad that I did it, that's, I mean, to talk about sweat and pee and tears on a scale like the Coup d'honneur, after Crying Body, I had to, let us say, rewrite the text. We start going in different directions for the creation of Coup d'honneur, because we discovered that, first of all, it's almost impossible, even when you sweat for real, pee for real, and cry for real, you don't almost register it on such a distance. So the challenge was there, after Crying Body, which kind of translation I make for L'histoire de l'âme.
En fait, je suis très heureux d'avoir pu faire ce spectacle Crying Body. Et vous savez, moi je considère que ça n'est pas du tout un spectacle terminé. Chaque œuvre que je fais est en fait incomplète. C'est simplement une porte ou une fenêtre sur une nouvelle pièce. Et donc rien n'est terminé. Tout est toujours en processus. Et donc je suis d'autant plus content d'avoir pu présenter Crying Body que lorsque l'on travaille sur les humeurs corporelles, la sueur, l'urine, les larmes, il est très différent de travailler à une petite échelle et au contraire de mettre en scène un spectacle à la cour d'honneur du Palais des Papes, parce que il a fallu adapter un certain nombre de choses, non pas tout réécrire, mais adopter de nouvelles orientations, parce qu'il est impossible, quand on juge justement sur ces humeurs, de savoir comment on peut les traduire à une autre échelle pour un nouvel espace beaucoup plus grand.
Yann Favre, merci beaucoup. Je crois que vous devez partir. Donc, je suis censé dans la cour d'honneur les 15, 16 et 17. Et on aura de toute façon l'occasion de se revoir, puisque on doit se retrouver dans quelques jours pour parler de l'empereur de la perte, de la roi du plagiat et du roi du plagiat. Donc, merci Yann Favre. Merci à Joanne Oliver aussi pour la traduction. Je vais demander à Karine Saporta de venir me rejoindre maintenant pour parler de deux sujets qu'il ne faut pas confondre sous peine de punition mortelle. Ah bon ? Pour qui ? Pourquoi ? Bon, oui. Karine Saporta, bonjour.
Bonjour.
Non, mais il faut juste l'ouvrir. Vous pouvez garder celui-là, je pense. Le blanc est-il ouvert ? Le blanc est ouvert. Donc, bonjour Karine Saporta, vous êtes la présidente de la commission danse de la SACD, chorégraphe bien connue, mais nous allons tout d'abord commencer par quelque chose qui n'a rien à voir justement avec la SACD, une chose très mystérieuse auquel j'ai moi-même pas vraiment bien compris, ça s'appelle l'enveloppe. J'ai cru comprendre que vous envoyiez des mots d'amour à Yann Favre.
Ce n'en sont pas des mots d'amour, ce sont des réactions accumulées au fil du temps. J'ai invité, je crois, la première chorégraphie d'Yann Favre, la première chorégraphie que Yann Favre faisait. Il avait fait des mises en scène de théâtre, mais c'était sa première chorégraphie quand j'ai eu une carte blanche au festival. Et depuis, c'est vrai que dans la solitude qui est la nôtre, je pense à nous tous artistes, dans des moments où on sent que tout le monde pense, on sent le tout le monde et le soi seul. Je me disais, il y a peut-être un artiste en Europe qui est en parfaite résonance avec une vision, une défense en particulier de la quête esthétique, du rapport à la beauté, du rapport entre la violence et la beauté, le sérieux fondamental et non pas la frivolité qu'il peut y avoir dans la quête de la beauté, le rapport à la guerre entre les êtres et la tendresse et l'amour et le rapport au manque. Toutes ces choses, quand je me sentais très seule, j'écrivais et souvent j'écrivais sur l'œuvre de Yann. Bizarrement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous artistes, d'écrire les uns sur les autres. Et c'était très inconscient, ça se faisait un petit peu comme on met un pansement sur une blessure. Et quand j'ai eu l'idée, sachant que Yann serait l'artiste invité, de faire sortir cette matière des tiroirs et des placards et de la donner à lire. Je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'écrire un livre sur Yann Favre, j'ai vraiment envie de communiquer en direct là où ces spectacles sont vus. Et là où éventuellement ce que je dis de ces spectacles peut être pris à chaud. Et donc, plutôt que de donner une publication ou un projet de livre à un éditeur, j'ai préféré demander à Hortense Archambault et Vincent Baudrier si cette matière pouvait les intéresser pour que circule dans le festival l'enveloppe qui contient donc ces notes.
Justement, on va parler des relations de votre travail et de celui de Yann Favre, de cette relation secrète un peu quand même entre vous deux. Mais d'abord la forme, ça se présente, enfin il est dit que c'est une installation, l'enveloppe, il faut aller retirer une enveloppe salle Franchet au lycée Saint-Joseph, qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai l'impression qu'il y a une nouveauté comme ça de forme dans ce que vous proposez.
Alors, c'est déjà le plus important, c'est effectivement c'est une enveloppe dans laquelle des éléments, c'est une vraie enveloppe 21-29-7, dans laquelle des textes, des photos, plus ou moins en résonance avec l'univers de Yann et un projet de spectacle que j'ai fantasmé écrire avec Yann, sachant qu'on ne peut pas écrire à deux, enfin deux chorégraphes, surtout qu'on n'a aucune raison de monter, de travailler sur un spectacle ensemble. Donc dans cette enveloppe sont rassemblés ces éléments. Et cette enveloppe, vous pouvez, les spectateurs peuvent la faire circuler, puisque moi je suis l'expéditeur et le destinataire est indiqué en blanc. Donc ce que je souhaiterais, c'est effectivement, puisque c'est sous forme d'enveloppe, que les spectateurs qui viennent à Avignon puissent faire parvenir par-delà les montagnes, je dirais, ailleurs, auprès de gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas été présents au festival et qui n'ont pas forcément senti peut-être l'importance historique de ce festival, que je considère comme très important, qui puissent l'envoyer à des non-spectateurs, que ce soit une enveloppe qui circule. C'est un cadeau. Je dirais, d'une certaine manière, c'est aussi un cadeau que je fais, puisque j'ai trouvé les moyens par moi-même de fabriquer cette enveloppe, comme s'il avait suffi de prendre un timbre et de la coller sur une lettre. C'est pas si simple, parce que quand on fabrique en X exemplaires une enveloppe, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est un geste très personnel, je dirais, quasiment intime, dont je suis l'auteur et qui n'a pas été véritablement accompagné. C'est vraiment dans la foule, dans la multitude, j'ai envie de faire signe à quelqu'un.
Mais une question un peu ridicule, pourquoi ne pas envoyer directement votre enveloppe à Yann Fabre? Pourquoi prendre comme ça des centaines de témoins dans les rues d'Avignon?
Ah non, c'est pas à lui qu'elle est destinée. Non, c'est pas à lui qu'elle est destinée, c'est comme un livre, comme on écrit un livre, on l'écrit au public. J'aurais pu écrire un livre sur Yann, c'est pareil. C'est pas, si j'avais écrit un livre sur Yann, je ne lui aurais pas envoyé nécessairement, si peut-être en premier lieu. Mais c'est pas, je dirais, c'est un travail sûr. Et c'est pas un travail pour lui.
Alors quels sont vos liens, comme c'est un peu mystérieux, un peu secret, vos liens de travail, Karine Zaporta, avec Yann Fabre? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement? Pourquoi sur cet artiste-là vous écrivez comme ça depuis plusieurs années des notes et des réflexions?
Alors la première chose, c'est que je pense que c'est le seul qui affronte des problématiques taboues ou interdites d'une manière générale, et pas forcément les tabous dont tout le monde a parlé, surtout au sujet de l'histoire des larmes, c'est-à-dire c'est pas le tabou de montrer des parties généralement peu mises en danse sur un plateau. Quoique ça, c'est très important aussi. Je dis dans un des textes qui est dans l'enveloppe que ce qui s'est passé dans la mise en jeu à la fois de ce que j'appelle la danse des organes génitaux, la danse du prêtre dans l'histoire des larmes, et ce qui s'est passé aussi dans la mise en fonction de la vessie à un moment donné sur scène, il y a certainement là quelque chose de beaucoup moins anecdotique qu'il n'y paraît et beaucoup moins simplement scandaleux qu'il n'y paraît. Je crois que dans quelques temps, comme c'était le cas dans des pratiques ancestrales, je pense au yoga par exemple, la danse ne sera plus simplement une affaire qui touche la peau, les muscles, mais profondément aussi le corps organique. Et je suis certaine que dans 50 ans, on pourra très bien imaginer que la langue, les viscères sont impliqués différemment dans la danse. Comme c'est le cas dans des pratiques en Inde. C'est-à-dire, il y a une telle profondeur dans le travail sur le corps qu'on ne s'arrête pas aux muscles. Donc déjà, là pour moi, ce sont des choses qui n'ont jamais été dites. En tant que chorégraphe, j'ai extrêmement besoin de les dire, parce que je crois les lire. C'est très très prétentieux d'une certaine manière, mais on est toujours prétentieux quand on a l'impression de découvrir quelque chose d'un autre. On pense que les autres ne l'ont pas découvert, mais je veux vraiment dire que je crois que le travail de Yann sur le plan formel, dans la considération de ce qu'est le corps et la manière dont il peut être mis en danse, est extrêmement avant-gardiste, mais bien au-delà de l'aspect comme ça un petit peu bousculer des tabous. Mais il faut bien les bousculer pour mettre en jeu justement quelque chose d'un autre ordre. La deuxième chose, la deuxième idée que lui, je crois, oblige à considérer et qui exclut depuis quasiment un siècle, plus d'un siècle dans la création contemporaine dans l'art, c'est le rapport à la beauté comme étant effectivement un plaisir complexe, mais un plaisir qui n'est pas frivole et je dirais décoratif. Je parlerai pas des guerriers de la beauté, qui est effectivement un titre que je trouvais vraiment éloquent. Mais c'est vrai que particulièrement depuis la période nazie, l'idée que on puisse faire de la beauté un symbole qui écrase les autres, qui dans la hiérarchie des valeurs se situe au-dessus des autres, a perdu énormément de crédibilité et d'intérêt auprès des artistes et auprès des gens bien pensants. Je dirais que c'est politiquement incorrect de parler de la beauté ou de mettre en avant la beauté. Cette problématique, elle n'est soulevée pour moi que dans l'œuvre de Yann. L'autre chose qui fait aussi un petit peu question dans son travail, c'est le côté parfois difficilement supportable, enfin ça a été le cas pour un certain nombre de pièces, difficilement supportable de la répétition, enfin d'un certain type de répétition. Je pense aux répétitifs flamands, à des chorégraphes qui savent peut-être faire autrement, qui sont dans une harmonie malgré le côté parfois extrêmement insistant de la répétition. Je pense que la manière de traiter la répétition par Anne-Thérèse de Kersmacher est une répétition qui n'est pas du tout la même, parce que ce n'est pas une répétition sèche. D'ailleurs, c'est toujours une répétition qui va se levant dans le fil de la rivière qui continue de couler. Alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement abrupt, d'extrêmement cassé et cassant chez Yann, qui à mon avis a une portée infiniment plus puissante, mais voilà, qui est mal perçue, mal ressentie. Et j'avais envie de dire que dans cette grande galaxie des artistes du début du XXIe siècle aujourd'hui, il y avait peut-être des réseaux possibles. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait davantage de réseaux, et c'est ce aussi pourquoi je me suis donné la peine de faire cette enveloppe, pour dire qu'il n'est pas dévalorisant pour nous de montrer l'admiration ou le penchant qu'on peut avoir pour l'œuvre d'un autre.
Donc cette enveloppe à retirer à la salle Franchet du lycée Saint-Joseph. Alors, l'autre raison de votre présence sur scène, et c'est là la présidente de la commission SACD qui va causer, c'est le sujet à vif, rendez-vous habituel à Avignon, rendez-vous dansé entre un chorégraphe et un interprète. Chaque année, il y a de nouvelles propositions. Cette année, il y en a trois, à trois horaires différents, et les uns et les autres arrivent sur scène. Christian Rizzo, que je connais, mais je ne connais pas le jeune homme qui est avec vous. Donc j'imagine, mais peut-être que je me trompe, que c'est Jean-Baptiste André.
C'est ça.
J'ai eu raison. Donc, chorégraphe et interprète, je vous laisse donner le ton de ce sujet à vif, Karine Zaporta, avant d'interroger Christian Rizzo et Jean-Baptiste André.
Pour trois des propositions, le choix des artistes s'est fait de manière très concertée, justement avec Yann Fabre. Il s'agit en particulier de Marc Van Rungst, de La Belle Sedana, donc deux danseurs qui sont à la cour d'honneur d'ailleurs et dans la création de Yann, qui danse avec Yann depuis longtemps, et puis Emio Greco qui a travaillé, qui a fait un passage chez Yann Fabre. Donc c'est vrai que ces trois propositions, ça me semblait très important, puisqu'effectivement, en me sentant interpellée par la démarche de Yann, je me suis dit, on va pas programmer séparément, et moi je vais pas faire un sujet à vif complètement détaché de sa sensibilité. Donc ces trois propositions sont vraiment ont été travaillées ensemble. Et puis les deux autres noms, en particulier Jean-Baptiste André et Christian Rizzo. Le choix s'est porté d'abord sur Jean-Baptiste André, puisque l'idée de ce sujet à vif, qui ne s'appelle plus le vif du sujet, ce n'est pas de choisir d'abord un interprète et puis ensuite de laisser l'interprète choisir son chorégraphe, mais ça peut arriver, et en l'occurrence ce n'est pas un danseur, c'est un artiste de cirque qui a fait l'objet du choix prioritairement. L'idée du sujet à vif, c'est aussi de croiser au maximum les formes d'expression. L'année dernière, il y avait déjà un jongleur qui a fait une création avec un mime, d'ailleurs. C'est une création tout à fait intéressante. Et je trouvais important de garder un petit peu ce fil rouge. Ils seront là, ils en parleront plus précisément.
Mais c'est Jean-Baptiste André, mais c'est eux qui vont peut-être répondre. C'est Jean-Baptiste André qui a choisi Christian Rizzo, ou vous avez fait l'entremetteuse, Karine Zaporta?
Non, en l'occurrence, moi, j'ai vraiment choisi Jean-Baptiste, et j'avais d'autres propositions d'ailleurs pour lui, parce que j'avais rêvé que ce duo puisse se faire avec d'autres chorégraphes, et je crois que la détermination est venue vraiment de Jean-Baptiste André et de Christian eux-mêmes.
Comme crâne, comme culte, c'est bien ça?
C'est ça.
Donc pourquoi avoir été chercher Christian Rizzo? Est-ce que c'était un rêve, un désir, une impossibilité qui se transformait?
Ça va être une confidence un peu pour Christian. En fait, j'ai découvert le travail de Christian il y a un an et demi en assistant à plusieurs de ses spectacles. Et pour moi, ça a été vraiment un choc esthétique de découvrir son univers. Et ça a été une grande source d'influence après, comme des pensées comme ça ou des souvenirs. Où, bah voilà, c'était vraiment une révélation. Et j'étais très hypnotisé par cet univers très plastique aussi, à la croisée de la danse, des arts plastiques, de la musique aussi, avec un univers sonore très présent. Et moi, je viens du cirque, et je suis très attiré par la danse, et c'était pour moi un chorégraphe, un phare, tout simplement. Et j'ai osé l'appeler, et il s'avérait que voilà, il y a eu plein d'heureuses coïncidences et des belles chances en fait, et le travail voilà s'est déroulé très très facilement. Enfin,
ça vous arrive souvent, Christian Rizzo, qu'on vous appelle pour vous dire comme ça, je vous veux?
Non, on m'a jamais appelé pour me dire je te veux, pas encore. On m'a dit je te veux plus, oui, mais pas je te veux. Non, enfin, Maintenant, oui. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis quelques temps, je commence à être un peu plus visible. Donc, automatiquement, ben, oui, je reçois des appels de personnes qui ont envie de rejoindre le travail. Voilà. Mais je pense que ça arrive aussi à tout le monde à partir du moment où on sort de la clandestinité.
Mais que ce soit un artiste de cirque, donc non danseur, a priori, maintenant, qu'est-ce qu'un danseur? Mais non danseur vous appelle, est-ce que ça vous a titillé particulièrement ou vous avez quand même eu quelques réserves au départ ou au contraire, vous êtes dit, voilà, un nouvel espace possible de travail?
Pour moi, de toute façon, le fait que ça soit une nouvelle rencontre, c'est un nouvel espace de travail, quoi qu'il arrive. Ce qui était drôle avec Jean-Baptiste, c'est que, donc, pour la pièce que je présente après au Carme à partir du 19, à l'époque, je cherchais aussi des interprètes, et on m'avait dit, ça serait bien que tu ailles voir Jean-Baptiste, André. Donc, je connaissais son nom, mais je savais pas du tout qui c'était. Et il se trouve qu'il y a eu vraiment des concours de circonstances. On s'est rencontrés dans un ascenseur, à Brest. Et on me dit, tu es Jean-Baptiste, tu es Christian, oui, on a bouffé ensemble le soir, on s'est donné une semaine de réflexion, on a dit on y va, quoi, voilà. Moi je savais pas du tout, je le connaissais pas, il me connaissait pas directement, et on s'est dit, c'est l'enjeu du travail, on va se rencontrer en travaillant.
Mais en même temps, quand il dit qu'il n'est pas un danseur, il exagère un peu, je trouve, non?
Oui,
parce
mais
que c'est spectacle, enfin...
Moi, je sais pas ce que c'est un danseur, c'est-à-dire que, à un moment donné, on travaille avec quelqu'un qui a une capacité à rendre poétique, ce qu'il fait par sa présence, par son corps. Voilà, après, que ça soit un danseur, je sais pas, un boucher, j'en sais rien, enfin, c'est des gens qui sont animés de désir, et ce désir-là transparaît. Donc moi, je ne peux être qu'avec ce désir-là et l'accompagner.
Donc il n'y avait pas d'incongruité à ce que vous retrouviez travaillant avec un chorégraphe, Jean-Baptiste André?
Non, au contraire, je cherche ça, parce que c'est toujours dans les croisements qu'il y a, dans ces frontières, comme ça, entre les disciplines, qu'il y a des choses qui naissent et qui se découvrent aussi.
Vous avez vu le travail Karine Zaporta déjà ou pas?
Non, pas encore. Aucune des pièces, si ce n'est celle de Joanne Saunier, qui reprend pour partie le travail qu'elle a fait l'année dernière. Je rappelle un peu l'histoire. Joanne avait demandé à Anne-Thérèse Kersmacher de lui donner des matériaux, c'est-à-dire des phrases gestuelles, qu'elle est allée retravailler à New York avec le Wooster Group, et ça a donné le très très beau solo sur la bande-son du Mépris qu'elle a montré l'année dernière. Et cette année, elle est repassée par la griffe d'Anne-Thérèse, enfin la griffe au sens stylistique, et donc elle propose une deuxième partie qui, elle, est recorégraphiée par Anne-Thérèse Kersmacher, et donc les deux parties me paraissent importantes. Il faut dire que cette quatrième programmation, qui est aussi d'une artiste qui travaille en Belgique, a été aussi largement débattue avec Yann. Donc sur les cinq propositions, j'ai dit trois, il y en a quatre qui ont été travaillées de concert avec Yann Fabre, et puis Jean-Baptiste et Christian Rizzo viennent vraiment comme, je dirais, un fil rouge par rapport à la programmation de l'année dernière. Une sorte de constante que j'aimerais bien garder à travers le festival. Et je pense que le travail de Christian... Moi, je n'ai jamais vu le travail de Christian Rizzo. Donc, moi, j'ai choisi d'abord Jean-Baptiste, c'est lui qui a choisi Christian. Mais j'ai eu l'occasion de discuter longuement, une fois, au téléphone avec Christian Rizzo. Et je pense qu'il y a aussi toute une réflexion intellectuelle qui m'est chère sur... Je me souviens qu'il m'a parlé de sa conception des icônes théâtrales. Donc, moi, j'ai traduit dans un langage beaucoup plus vulgaire, banal et moins joli, archétype. Il m'a parlé, il m'a donné deux, trois indications sur la manière dont il voulait traiter son sujet cette année, en référence d'ailleurs à une autre création qu'il avait faite aussi dans ce qui s'appelait encore le vif du sujet. Je pense que là, il y a aussi une pensée intellectuelle très, je dirais, référencée, qui m'intéresse beaucoup, mais j'attends avec impatience de découvrir.
Mais c'est vrai, enfin, si je peux rajouter, c'est vrai que l'histoire aussi du travail qu'on a fait avec Jean-Baptiste est complètement en écho, en fait, avec ce qu'a été le vif du sujet, puisqu'il y a 3 ans de ça, donc Rachid Ouramdan, danseur chorégraphe, m'avait demandé de travailler avec lui pour un vif du sujet. On a fait une composition qui s'appelait donc Skull Cult, et voilà, on a décidé cette année, comme on était dans le même lieu, et Jean-Baptiste ayant vu cette proposition, de réinterroger en fait cette forme-là. Pour ceux qui verront, il y a quelque chose de mystérieux sur l'interprète en même temps là-dessous. Donc c'était aussi l'occasion de se dire, comme je travaille beaucoup aussi sur des filtres, comment on arrive à avoir accès finalement à ces corps. Jean-Baptiste se retrouve aujourd'hui dans un double filtrage qui est à la fois le filtre du costume et de l'icône qu'il porte, mais en même temps de l'histoire aussi qui a déjà existé avec Rachid Ouramdan. Donc,
c'est-à-dire combinaison de cuir et masque de moto.
C'est exactement la même scénographie et le même costume.
Par contre, tout le reste, voilà. Il y a un effet de mémoire. Et pour moi, c'était important aussi d'être, enfin, dans ce lieu, avec toutes ces propositions qui se succèdent, de réinterroger à la fois cette proposition que j'avais faite, mais en même temps de toujours rester, de poser la question aussi de qu'est-ce que c'est un interprète à partir du moment où on n'a pas accès directement à lui, et notamment derrière son visage ou son corps directement.
Merci Christian Rizzo. Y a-t-il des questions à Karine Saporteur, à Christian Rizzo ou à Jean-Baptiste André ? Alors on n'a pas dit qu'on était pressé par le temps, et du coup, personne ne lève la main. Non, pas de questions. Donc, nous allons tous découvrir à partir du 14 vos propositions. Le vif du sujet, 11h, 18h et 20h. En fait, oui, je dis trois propositions, c'est trois rendez-vous dans la journée, mais c'est deux, quatre, cinq propositions, en fait.
Je vais peut-être préciser, puisqu'effectivement, pour beaucoup, c'est énigmatique, que l'enveloppe est tirée donc en nombre limité. Donc, après Avignon, on ne peut pas la trouver. Elle est disponible de 15h à 20h. Tous les jours jusqu'au 23, salle Franchet au lycée Saint-Joseph. J'insiste parce que c'est véritablement comme, je dirais, une œuvre qui s'éteindra après le festival.
Merci Karine Saporteur. Merci à vous aussi. Merci. Je vais demander à Marina Abramovitz de me rejoindre. Donc nous voilà tous installés, déploiement de force avec Marina Abramovitz, que vous connaissez, reconnaissez, et six de ses étudiants qui finissent leur cycle à ses côtés en Allemagne et qui sont pour certains, non pour tous, les interprètes de biographie remix que l'on peut voir actuellement à Avignon. Alors Marina Abramovitz, avec eux, vous venez non pas reparler du spectacle biographie remix, même si on peut en parler un petit peu, je crois que vous voulez intervenir sur ce qui a été écrit ce matin dans Libération, mais surtout pour présenter une performance que vous allez faire le 16 juillet à l'École des Beaux-Arts, une performance de 6h, de 15h à 21h. Donc on va parler de transmission, on va parler de cette performance, mais vous vouliez dire deux, trois choses sur le papier de Libération, je ne sais pas quoi. Natasha Madel étant l'interprète.
Okay, good morning. I would just like to make je sais parler français, je sais pas, c'est difficile. Mais je vais juste faire un petit comment sur la Libération aujourd'hui. Il est venu un article avec le titre Une vie de performance qui est vraiment magnifique, qui est complètement une positive critique de moi. Mais je dois être très content avec ça, mais je suis très triste. Parce que c'est pas seulement une performance, c'est toute ma vie mise en scène. Et c'est pas moi qui l'a fait. C'est fait un directeur, Michel Laub, qui est un directeur belge avec un grand talent. Et dans cet article, on parle de tout qui est positif sur la mise en scène, sauf donner un nom de le directeur. Et ça, c'est vraiment, je pense, une faute énorme, parce que ce spectacle, on ne peut pas se passer sans lui. C'est ce que je veux dire.
Précision importante. Donc Marina Abramovitz, vous faites une proposition de performance pendant 6 heures avec vos étudiants à l'École des Beaux-Arts d'Avignon le 16, donc à partir de 15h. En quoi va consister cette performance? Qu'allez-vous demander à vos étudiants?
Okay, no, in French. I would like to say, no, I say français aujourd'hui.
Yes.
C'est pas, okay. Je vais expliquer, non. English.
No, French.
Let's do English. All right. So,
on peut faire voter le public, en français ou en anglais?
C'est français. C'est tout français ici? No, I see English guy here. No, I just try English. All right. See, I teach for many years, and I was teaching the most of the time in Braunschweig, which is in Germany, the performance, the course on performance. And there I have many students from the different countries study in my program. In one point, I decided to stop teaching. It's only about 8 months ago, and make and form something called IPG, Independent Performance Group.
Donc voilà ce que je voulais dire. J'ai enseigné pendant de nombreuses années à Braunschweig, en Allemagne. Donc j'ai enseigné l'art de la performance. Et dans ce programme, j'avais donc de nombreux étudiants venant de différents pays. J'ai arrêté d'enseigner là-bas il y a exactement 8 mois et j'ai créé l'IPG.
So why I stopped teaching? When I have the students for a long period of time, like you know, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, I get very attached emotionally with them and became really like a family. And in one point, these students have to finish and have to make diploma and have to leave. And there was the moment that I have to get new students in my class, and I was thinking that I can't do that. I feel that I would like to leave and spend more time and more attention to these people. I work with them already and really try to help them in their career to actually make their own work, the performance, which is a very, very difficult subject, you know, in as art discipline.
En effet, j'ai eu de nombreux étudiants. J'ai eu pendant un certain temps, de trois à six ans, et je me suis attachée à eux avec le temps. Et évidemment, c'était une sorte de famille. Et le problème, c'est qu'ils finissent au bout d'un moment, ils obtiennent leur diplôme et ils partent. Et moi, c'était difficile pour moi. Je voulais les garder avec moi. Et évidemment, cela entraînait l'arrivée de nouveaux étudiants. Donc j'ai décidé d'arrêter pour pouvoir suivre ces étudiants, les aider dans leur carrière et les aider dans cet art difficile qu'est la performance.
You know, my beginnings was extremely difficult starting in Yugoslavia, and it was so difficult in that time in the 70s to do performance. It was like a first woman walking on the moon or something. And I was thinking, why they have to all have to such a difficulties if I can really help? And I was thinking that artists have to have generosity in certain time of their career that can help young generation of the artists to have this transition from being student into professional artist.
En effet, je sais ce que c'est, les débuts sont difficiles. Moi-même, j'ai commencé en Yougoslavie dans les années 70, et être une femme qui fait de la performance, c'était un peu comme la première femme qui arrivait sur la Lune. Donc je sais à quel point c'est difficile, et je voulais les aider. Et un artiste doit être généreux et pouvoir aider justement ces nouvelles générations. Donc ce que je voulais, c'est pouvoir créer une espèce de transition pour les aider à devenir de véritables professionnels dans cet art.
Now IPG, Independent Performance Group, have 41 members, and from the 22 countries, I mean including Russia, Yugoslavia, of course. I mean, it doesn't exist Yugoslavia anymore, but they say Bosnia and Serbia, and we have artists from Ireland, from Austria, from Germany, from Korea, from China, from Indonesia, from Germany, of course. I mean, just almost all around the world.
Donc le projet IPG compte actuellement 41 artistes venant de 22 pays différents. On peut retrouver la Russie, bon, l'ex-Yougoslavie, en parlant de la Bosnie, de la Serbie, de l'Indonésie, l'Allemagne, l'Autriche, la Chine et bien d'autres pays encore.
Okay, so now what is very important here, that we have six people who are part of the biography. They're playing, you know, the part of this biography remix directed by Michel Laub. The steel performance is tonight and tomorrow. But on the 16th, they will make their own work, and it's very important that they can show their own work in this festival circumstances. And this will be in Beaux-Arts, and the work is not just simple thing. It's not a theater. It's the performance with a long, long duration. Each of them will make the piece, who will be 6 hours, so from starting from 3 to 9 in afternoon, and it's more like a kind of a human installation. We call this loop performances. We can see if you want 1 minute, 3 minutes, 3 hours, depends how much intrigue you to see of the piece you, as the audience.
Donc ici, ce qui est très important, c'est que vous avez en face de vous donc 6 personnes, en effet, qui participent au Biographie Romix, qui est mise en scène par Michel Loeb, et qui se jouera ce soir encore et demain soir. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils vont présenter leur propre travail ici le 16 juillet à l'École des Beaux-Arts. Et ce n'est pas du théâtre, vous allez voir, c'est de la performance tout dans la durée. En effet, chacun va présenter sa propre performance pendant 6 heures, de 3 heures à 9 heures de l'après-midi. Vous allez voir, ce sont des sortes d'installations humaines, vous allez voir des performances en boucle, et chacun peut venir et regarder une minute ou 3 heures de cette performance.
Comment se...
Je veux présenter les artistes. Ici, c'est de Snežana Golubović, elle vient de Serbie, de Belgrade. Ici, c'est Declan Rooney, il vient d'Irlande, Dublin. Ici, c'est de Viola Jacetic, vient de Braunschweig ou de Hanover. Il vient de Hanover, en Allemagne. Hijung, il vient... il vient de Corée, de Herman Witzhok, il vient d'Allemagne aussi, de Braunschweig, et Doreen Uhling, il vient de l'Allemagne.
Je voulais juste savoir, Maina Abramovitz, selon quels critères vous déterminez une durée pour la performance? Pourquoi 6 heures?
Ok, ça c'est une question très importante, parce que vous savez, toujours les artistes maintenant, dans cette époque, font les vidéos qui sont 1 minute, 30 secondes, on fait les performances qui sont très courtes, et sont une sorte d'entertainment. Quand vous venez dans la galerie, il y a une ouverture, il y a les petites performances. Et je pense que c'est très mauvais, parce que notre vie est très vite, et si l'artiste fait toutes les choses qui sont vite, c'est comme like remote control. Tu es dans la maison et tu fais le remote control, tu vois 30 programmes de télévision dans le même temps. Ça vraiment ne fonctionne. Il faut vraiment s'arrêter dans le temps. Et mon proposition, la proposition des artistes ici, c'est qu'il faut prendre le temps pour les choses. Il faut non seulement la préparation de l'artiste, mais aussi la préparation de la public. Et les 6 heures, c'est longtemps. C'est longtemps que les choses vont se passer. Et c'est contre la vitesse de notre vie quotidienne.
Je ne sais pas qui peut répondre à cette question-là, si c'est vous ou si ce sont vos étudiants. Je voulais juste préciser que IPG, c'est...
Les jeunes artistes, s'il vous plaît.
Les jeunes artistes. Donc, à tour de rôle, vous allez leur passer le micro. Quel est donc, à vous, l'enseignement de Maina Abramovitz? Qu'est-ce que vous retenez de son enseignement, de ce temps passé avec elle? Vous voulez répondre?
I will translate. So he wanted to know what I am teaching you. What is my teaching system? What do you know? What you think you learn? What you think you learn from me? So, Viola.
First of all, I think what I learned by her from a really earlier starting point of my study was to get out, to get to the public, to get a good public, to get out of the school context. And actually to realize the work in different conditions, not only in terms of time or in terms of a certain public or context, but also in a certain or in a different state of intensity in mind. This is to me.
Ce que je voulais dire, en un premier temps, ce que j'aime avant tout avec Maritna, surtout au début de mes études, c'était d'apprendre la manière d'avoir un rapport avec le public, de travailler en fonction des différents contextes, et surtout de réaliser une œuvre ou un travail sous différentes conditions. Pas seulement, ce n'est pas uniquement une question de temps, mais c'est aussi donc le rapport avec le public, le contexte, et on peut aussi parler des différentes étapes d'intensité.
I think the main point I learned is the concentration on the duration, and that my works are clearer now. So I make performance before I came in Marina's class, and all my works were a little bit chaotic, and I had a lot of material, and you couldn't understand why I like to show it. And then she taught me how I can do it in a simpler, clearer way, and the duration, of course, and yeah.
Ce que je voulais dire Ce qu'elle m'a surtout appris, c'est la question de la concentration. J'avais en effet fait des performances avant, mais elles étaient plutôt chaotiques. On ne comprenait pas toujours très bien quel était l'objectif de ces performances. Mais elle m'a appris à faire les choses de façon plus simple et plus claire.
Mais combien de temps vous avez passé avec Marina, dans l'enseignement de Marina Abramovitz?
How many times you stay with me, you know, teaching? How many years? Sont toutes les différentes années. How many times you stay?
So I met her in 2000.
Je l'ai rencontrée en 2000.
And then I studied in her class, and now I finished my master, and now I'm in this group.
So donc j'ai fini, ça fait 5 ans en tout, puisque je viens d'obtenir mon diplôme là actuellement.
Since I met Marina with my performance teacher.
Depuis que j'ai rencontré Marina, qui était mon professeur de performance,
I learned from her how I can live, how I can do my performance with my passion.
J'ai appris en fait à savoir comment vivre ces performances, comment les travailler.
I always admire Marina's how she lives with her passion to life, how she presents her life to her performance. It's amazing to have impression, emotional, to make me as an artist. It's the point, it's the way I can do perform with her. Her guide, it's great, such a great thing. To be do, it's to know her in my life. It's such a great thing to make. Yeah.
Ce que je veux dire, ce que j'admire surtout chez elle, c'est la passion, la façon dont elle met en scène cette vie, la façon dont elle présente sa vie dans les performances. C'est ça qu'on apprend énormément émotionnellement. Et elle apprend de moi à devenir une véritable artiste aussi. Donc je suis ravie de pouvoir faire ces performances avec elle. Et la connaître est une grande joie.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Marine?
Non, je pense que c'est très important que les gens parlent de son travail plus que de moi, parce que c'est très embarrassant.
Mais parlant de leur travail, enfin parlant de...
Mais il y a aussi les gens d'audience qui peuvent demander une question. Vous avez une question? Le microphone? Il n'y a pas. Au microphone? C'est lui.
Marina Abramovitz est la modératrice. Vous avez raison.
I would like to know, my English is very bad, but I would like to know what difference you made between performance and representation in a traditional theater. Is for you very different or not? And does it mean that you have to learn, it's an idea not very just, but you have to learn theater on a part, to learn dance, contemporary dance, and you have to learn on a support performance. You understand? No? I'm very bad.
He wanted to know what's the difference here between theater, classical theater, and the performance. I think c'est la question principale. C'est la différence entre le théâtre, on va dire, et la performance. Est-ce qu'il faut apprendre, c'est ça, à danser ou...
So he wanted to know if you have to learn how to dance too, or learn some things like that.
C'est une question à moi. Oh, la différence est absolument énorme. Elle est complètement blanc et noir. Le théâtre et le performance. Parce que pourquoi la performance est tellement importante? Parce que performance, on parle de moments ici et maintenant. Ça, c'est très important. Et le théâtre, il ne parle pas de ça. Et aussi, tu joues quelque chose, tu es quelqu'un d'autre, et tu répètes tout le temps. Tu répètes parce que tu dois être dans le même temps, dans le queue, dans le théâtre et tout ça. Mais aux performances, tu jamais n'essayes pas ton concept. Il y a le concept et tu essayes la première fois avant le public. C'est la réalité pour toi comme le public. Et tout les possibles everything can happen, absolutely everything can, and every accident, every element who is unexpected have to be and could be the part of the piece. You have to incorporate. So it's the kind of the moment of here and now in reality is so strong. And you know, because you have to be open to the to that moment. You know, with the theater, you don't. You know, every single moment, what is the next cue? You know, that's the huge difference. You don't need to dance. You don't need to sing. You don't even need to do this good, but you can still do in the form of performance.
En effet, tout peut arriver. Il peut y avoir n'importe quel type d'accident. Il faut savoir intégrer ces événements inattendus, en fait, dans la pièce. Et ce qui est important dans la performance, c'est le moment, c'est l'ici et le présent. Et c'est pour ça que cela fait de cela quelque chose de très, très fort. Donc, il faut être capable à la fois d'être ouvert à cet instant présent. Et je pense que c'est l'une des grandes différences avec le théâtre. Au théâtre, en effet, on sait ce qui va se passer par la suite. On connaît déjà les répliques suivantes. Mais pour la performance, non, on n'a pas besoin d'apprendre à danser ni d'autre chose de ce genre. L'important, c'est le moment présent et de pouvoir le faire.
You know, my definition of performance is this one. You have to make your own mental and physical construction in the front of the audience, and you put a certain time and space. You say, today, from now, on the 13th of July 2006, I'm going to do this performance. And you have to be ready for that moment. And it's all about your concentration and the willpower and to be there in the front of the public and create the strongest energy dialogue you can.
Donc, en effet, pour moi, la définition même de la performance, c'est de créer une espèce de construction mentale et physique par rapport au public et le tout dans un contexte, on va dire, de temps. Par exemple, voilà, vous dites le 13 juillet 2005 ou 2006, je vais faire cette performance et vous allez la faire. Donc l'essentiel, c'est d'être prêt. Il faut être très concentré, avoir cette force de la volonté pour être capable de le faire et surtout d'instaurer ce dialogue tout en énergie avec le public.
Alors, pour reprendre un peu le fil de ce tour de table, donc le 16 juillet, et on va reprendre le micro là où il était, le 16 juillet, vous décidez de faire quelle performance et vous vous préparez de quelle manière?
So the 16th of July, you're going to perform. What are you going to perform and how do you prepare yourself for this performance?
Hello. well, for the piece I'm making on Saturday here, it's actually a work that I'm not performing it myself, but I've just created a scenario where I'm working with some people from Avignon. So I've created the scene. It's going to be a performance installation combining the two elements of my work, which are the most dominant right now, which is video and installation performance. So the work on Saturday will be a mixture of those two elements. My work.
En effet, samedi, bon, je ne vais pas performer moi en tant que telle, mais j'ai déjà préparé le scénario et je vais travailler avec des personnes d'Avignon. Donc ce sera surtout une installation qui mettra en scène deux éléments principaux de mon travail, c'est-à-dire la vidéo et l'installation en soi. Donc ce sera une espèce de mix, on va dire, de ces deux éléments essentiels dans mon travail.
On poursuit le tour de table.
Next one.
Yeah, I can't really explain. You have to come to see it.
Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Il faut que vous veniez le voir.
No, but actually, I'm working with performance, but I'm not only interested in performance in the way we used to know it from the past. So I'm interested in questions about medias, and I'm doing combination with performance and photography and.
En effet, dans mon travail de performance, je ne m'intéresse pas seulement à la performance comme on le faisait dans le passé. Donc ici, je vais surtout me poser pas mal de questions sur les médias et je vais combiner différents éléments, dont la photographie.
La suite. Oui, c'est finalement une question assez compliquée, Marina Abramovitz, que vous leur posez.
C'est aussi difficile que si quelqu'un est jeune et jamais parlé de tellement in the front of such a grand public, ça c'est un peu difficile.
Vous ne les aviez pas préparés à prendre la parole
non.
le 13 juillet?
Non, les gens, j'ai préparé pour faire la performance, mais très fort. Et ça, quelquefois, c'est difficile d'expliquer avec les mots qu'est-ce que tu veux faire. Mais c'est language. What is language?
Langage.
Oui, visuel, surtout.
D'où l'impossibilité de mettre des mots dessus.
Oui, c'est le visuel. Mais je veux juste dire une autre chose que j'ai aussi fait le cours qui s'appelle Cleaning the House. Comment on dit ça en français? Nettoyer la maison. J'aime beaucoup. C'est un titre très domestique parce que tous les gens nettoient sa maison. Mais moi, je pense la maison comme le corps. Il faut toujours nettoyer votre propre corps et on jamais ne fait pas. On nettoie tout, mais le corps non. Et c'est le cours, c'est une fois par année, et sont tous les gens ici et les autres, jeunes artistes qui participent. Nous allons toujours dans un paysage assez sauvage où il y a ou c'est très chaud ou c'est très froid. C'est toujours mauvais. Le temps est toujours mauvais. Et le Sufi sentence le dit "The worst is the best." Le pire c'est le meilleur. Et comme ça, là, on arrive et on ne mange pas pour 5 jours, on ne parle pas pour 5 jours, et on fait les livres ou le magasin, on regarde la télévision, on ne fait pas le sexe, on ne prend les drogues, on ne boit l'alcool, c'est tout interdit, seulement sauf l'eau. Et dans ces 5 jours, on fait les exercices mentaux et physiques très durs. Pour vraiment essayer d'avoir une concentration, une perception et une volonté pour préparer pour la performance. Ces exercices sont très importants.
Et c'est ce qui s'est fait avec eux pour cette performance-ci?
Eh oui, oui.
Monsieur?
Puis la dame voulait poser une question après, donc allez-y. Hein, ouais. Donc en fait, je vous le passerai après. Alors en fait, Il y a plusieurs années à Montpellier Danse, il y avait Steve Paxton, qui était un chorégraphe américain, qui a 60 ans maintenant, qui a demandé à Yvonne Reiner, qui est un peu sa collègue, qui a à peu près le même âge, comment va ton ego? Et je trouve que la question était très intéressante, parce que c'est pas uniquement travailler l'œuvre ou le processus, qui fait c'est toujours très, très élégant, mais comment va ton ego, c'est-à-dire est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va mal, est-ce que tu le soignes, est-ce que tu as suffisamment de distance par rapport à ce genre de problème, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant ou vulgaire ou hors sujet complètement, ou au contraire très intéressant comme question? Et qu'est-ce que vous auriez répondu justement si Steve Paxton vous avez demandé comment va ton ego?
Je comprends les questions. Dis-moi en anglais, s'il te plaît. Tu parles anglais.
But my English is like bad.
No, but just what is the main question?
Some years ago, Steve Paxton, you know, Steve Paxton. You understand?
Yeah,
yes. Ask to Yvonne Reiner, how is your ego? Ego, you understand? Yes. Oui. And for you, is a good question. When you're working on the material, is only physical material, on the intellectual material, or moral material, or is this question inside your questions of when you're working? Understand or not?
Yeah, it's of course it's all.
It's a good question. It's a bad question. It's inside, outside.
Mais c'est compliqué ton question. Je sais, c'est la question de ego. Qu'est-ce que tu penses d'un ego d'un artiste? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Si quand tu fais l'exercice, c'est l'ego. Il y a quoi? Ma ego.
Oui, le vôtre. Comment va votre ego, Marina Abramovitch?
Oh God. Okay, you know, ego is the most dangerous, c'est la plus dangereuse chose pour un artiste, avoir un grand ego. Moi, vraiment, j'essaye que minimalise le plus possible. Parce que dans le meilleur chef-d'œuvre de l'art ancien, elle n'est jamais écrivé qui a fait. C'est là, c'est le travail qu'il regarde. Vous ne savez pas qui a fait ce travail. C'est inconnu, c'est toujours l'inconnu. Et maintenant, vous avez toujours ce nom qui est le premier, après vous regardez le travail. Et je pense que c'est pas bien. Et je pense qu'un ego d'artiste, c'est la plus dangereuse chose qu'un artiste peut avoir, parce que c'est un obstacle pour voir le travail, le propre travail. Et ça, je pense qu'il faut tuer ego. Et dans cette performance, Biography Remix, par exemple, c'est la première fois que j'ai donné le contrôle complètement. Je suis seulement une actrice dans une theater play de Michel Laub qui a fait sur mon vie. Mais j'ai donné tout ce droit à lui. Et ça, c'est la première fois que vraiment je n'ai un contrôle. Et c'est fantastique, c'est libération totale. Comme ça, je pense, sur l'ego.
Madame, vous aviez une question.
Moi, je voulais simplement vous poser la question. Vous parlez de performance depuis le début. Je ne connais pas du tout votre travail. La performance en milieu sportif, c'est toujours atteindre des sommets, toujours se battre, etc. Là, vous avez travaillé avec vos étudiants qui sont devenus artistes. Est-ce que votre projet, c'est de faire... en quelque sorte sortir de chaque personne des éléments inconnus d'eux-mêmes et de traduire une relation avec le public, ou est-ce que c'est véritablement faire ressentir au public des choses dont le public est ignorant et vous voulez arriver à quelque chose d'universel avec des expériences individuelles que vous travaillez en faisant la table rase, d'ailleurs, au départ?
C'est une très bonne question. I have to answer in English. It's very important that each of them develop individually. And the most important is to get your own material from your own life, but in the way that you can traduire and make really transcendental, that anybody can use it for his own life. So that's very important, because who cares about my private life if you can't make it universal? So each of them actually work with his own material. And, you know, my aim is that they actually, on the end, will not exist IPG. It will just be individual artist doing his own work in the context of art.
Ce qui est très, très important, en fait, c'est que chacun se développe individuellement. En effet, chacun va utiliser son propre matériel, c'est-à-dire sa propre vie. Donc l'idée est de traduire et de pouvoir transcender tout ce matériel de manière à ce qu'il soit accessible à tous. Donc vraiment, l'idée, c'est que chacun se développe individuellement. Et l'objectif, à la fin, c'est d'obtenir des artistes individuels travaillant sur leur propre œuvre.
Une autre question, une dernière question peut-être? Personne.
Ah, pardon.
Pardon, madame.
En français, est-ce que l'affectif est très lié à votre enseignement? Pouvez-vous enseigner les arts, et particulièrement la performance, sans utiliser une grande partie d'affectif, au point de suivre vos étudiants quand ils vont devenir dans la maturité des artistes? Avez-vous peur de la solitude quand vos étudiants seront complètement libres et partis?
The solitude. Oui, but you know, for me, one of the biggest pleasure is when somebody from the being a student become an artist and have success, and he's, and you know, completely he has his own career on his own. I think this is very important. It's the same thing, like, you know, many artists make their artwork, let's say painting, and then they can't actually detach themselves from the artwork. They always kind of like to have it in the studio, and they're afraid to sell it and to leave it, you know. And I think that's is any artwork, anything you do, and you know, or performance, you have to be able to let it go. Everything is, you know, they have to have their own life, and I'm just here as a moderator, as a medium in between. And then once they are independent, that's it, you know. I have to let it go. And if I'm afraid, I don't know. You know, in one of my films, I always say, on the end, everybody's alone anyway.
Ce que je veux dire, l'un des plus grands plaisirs pour moi, c'est justement lorsque l'un de mes étudiants devient un véritable artiste et qu'il a du succès et qu'il suit sa propre carrière. Des fois, on peut prendre l'exemple de la peinture, comme pour tout artiste. Il est très difficile, c'est vrai, de se détacher de son œuvre, de son art. Il peut avoir peur de vendre son œuvre et de la laisser partir, mais il faut être capable, que ce soit dans tout art ou dans la performance, de laisser partir son œuvre, et dans ce cas-ci, les étudiants, et qu'ils prennent sa propre vie. Moi, mon rôle ici, en fait, est le rôle d'un modérateur, d'un intermédiaire entre eux. Quand on parlait de la peur, justement, dans l'un de mes films, je le disais moi-même, à la fin, on se retrouve finalement toujours tout seul.
I would like to add something, just to... I would like to say that also the starting point of one of our work, or the exercises came from Marina or some of her ideas or some of her how can I say without saying wrong? Also, she of course influenced us as a teacher, as a person. I would like to say that we are doing our own work, and this might be, from a formal point of view, much more different than you would expect. I mean, I hope you don't expect to see six little Marina performances or doing this. Is much different. It comes from our past. It comes from our way of seeing the present, and it's quite different in the formal way of performing it.
Ce que je voulais ajouter, en effet, c'est que le point de départ de ce travail, bon, c'est vrai, vient de certaines idées de Marina, en effet, elle nous a influencé énormément en tant que professeur, en tant que personne, mais c'est notre propre travail, et c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est très différent peut-être de ce que vous vous attendez à voir, donc je tenais à le préciser. Vous n'allez pas voir des petits clones de Marina répétant ses performances. Ça sera très différent, en effet, parce que nous allons utiliser notre passé et notre vision du présent. Donc vous allez voir quelque chose qui peut-être vous surprendra.
Donc à voir à l'École des Beaux-Arts. Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement, s'il vous plaît.
I just wanted to clarify that we're talking about the IPG as an organization with 40 members and so forth. It's just important to point out that even within the group sort of just exists as a concept, in that we don't all like follow each other around and live together and so forth. And so each of the members are already busy doing individual projects, and we just come together in different forms. I mean, this show is six people. The previous show was 24 of us, I think, and so forth. So we come together in different manifestations at different times. So it's also important to realize that the artists, while being within the group, and working within the name or under the name IPG, also function independently on their own projects. And it's not like a school scenario. We never will graduate, in the sense that you can, the idea is that you can be in the group for as long as you'd like, and should your needs from the group change at any point, it's of course free to leave, but it's a very flexible situation, it's not dogmatic or something like that.
Ce que je voulais souligner également, que ce groupe est une existence finalement assez conceptuelle. C'est vrai que nous nous retrouvons tous et travaillons ensemble dans ce projet-là, mais chacun à côté, nous avons nos propres performances, notre propre travail, nos propres projets. En effet, à la fin de ce projet, nous n'allons pas obtenir de diplôme. On va dire que les besoins et la vie de ce groupe sont assez flexibles et changent au fur et à mesure, se développent.
Merci à vous, merci Marina Abramovitz. Donc Brutale Éducation le 16 à partir de 15h jusqu'à 21h. Et vous le disiez, on peut assister aux 6h, on peut venir juste 5 minutes aussi, c'est à l'École des Beaux-Arts. Merci. Qui est un rendez-vous obligé et traditionnel du Festival d'Avignon, puisqu'il existe depuis 1967, donc vous avez un long compagnonnage avec le Festival d'Avignon. Mais j'ai la sensation que d'année en année, ce rendez-vous évolue et que vous êtes de plus en plus intégrés à la programmation elle-même du festival. Ce ne sont plus des ovnis comme ça qui arrivent, de la musique sacrée qui arrive d'on ne sait où, mais c'est vraiment une programmation qui est portée par les artistes du festival aussi.
Exactement, puisque lorsque Vincent Baudrier et Hortense Archambault ont été nommés à la direction du festival, ils ont souhaité que la programmation des partenaires soit beaucoup plus entre beaucoup plus en résonance avec la propre programmation du festival. Je pense que dans un premier temps, ce travail-là nous a demandé un gros travail de réflexion, en tout cas de remise en cause d'un certain nombre de choses dans la programmation, et de rapprocher le monde de l'orgue autour notamment des instruments historiques d'Avignon et de l'approche région. Rapprocher ce monde du monde du théâtre n'était pas chose facile ou aisée au départ. Et puis finalement, en réfléchissant, on s'est rendu compte que c'était des passerelles, des liens pouvaient s'établir beaucoup plus naturellement qu'on pouvait le croire avec des acteurs qui... eux aussi connaissent le monde de l'orgue, aiment évidemment apprécient la musique, et on se rend compte que des liens très forts ont pu se tisser jusqu'à l'aboutissement peut-être cette année d'une programmation beaucoup plus construite en étroite programmation avec des artistes invités.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un programme lacrymal du fait de la présence
exactement,
de Yann Fabre?
Exactement. L'essentiel de la programmation du cycle d'orgue est autour du thème des larmes, un thème cher évidemment à la période baroque, qui l'évocation évidemment de la Passion du Christ a suscité de très très nombreux chefs-d'œuvre et de nombreuses larmes dans toute la musique de cette époque-là. Aussi avec une création donc de Yann Fabre, puisque Yann Fabre, en compagnie avec Bernard Faucroul qui organise ses compositeurs, et directeur du Théâtre de la Monnaie, qui connaît bien Yann Fabre par ailleurs, puisque Yann Fabre a mis en scène plusieurs opéras, notamment de Wagner, ces dernières années au Théâtre de la Monnaie. Il y aura donc une création de Yann Fabre avec la danseuse Annabelle Chambon sur une œuvre composée et créée par Bernard Faucroul à l'orgue du Temple ce lundi 18. Donc il y aura d'ailleurs deux représentations, une à 18h et une à 20h. Donc un programme orgue et chant, c'est-à-dire que la mezzo-soprano Romina Basso chantera des œuvres du répertoire de compositeurs de la Renaissance, de compositeurs baroques, John Bull, Arnold Schlick, Monteverdi. Et au milieu donc de ce concert, il y aura une création de Yann Fabre avec la danseuse Annabelle Chambon.
Alors on va aller vite hein, parce que le programme est imprimé, donc chacun peut s'y reporter. Il y a donc la présence de Yann Fabre. Vous avez aussi demandé à Olivier Py et à Olivier Cadio de mettre leur empreinte dans cette programmation, c'est-à-dire que vous leur avez demandé ce qu'ils aimaient de cette musique-là, c'est ça?
Pour Olivier Py, donc les concerts se sont déroulés hier. Nous avons voulu donner en concert les 6 sonates de Jean-Sébastien Bach pour violon et clavier, et on a proposé à Olivier Py cette musique, et lui-même a choisi d'intercaler un texte. C'était le Messie de Jean Grosjean, un auteur, ma part, que je connaissais absolument pas, un texte très très poétique, très fort, et qui était lu en contrepoint des sonates qui étaient jouées. L'autre intervention, celle d'Olivier Cadio, ça sera donc vendredi prochain, puisque il y aura un concert de création à la Métropole Notre-Dame-des-Dons, concert de création pour lequel moi j'ai écrit une messe, Missa Nuova, qui est une messe pour le concert. Et Pierre Guiral, donc directeur du Conservatoire d'Avignon, a écrit toute une pièce, 30 minutes, sur le Cantique des Cantiques. Et Olivier Cadio, traducteur de la Bible et donc du Cantique des Cantiques, deux de ses comédiens, notamment Laurent Poitronneau, diront, entre les parties du Cantique des Cantiques de Pierre Guiral, des extraits de la traduction d'Olivier Cadio.
Donc, et si, pour finir, et pour être tout à fait complet, mais vous l'avez déjà évoqué, il y a aussi par ailleurs des créations spécifiques, indépendamment des artistes du festival, dont une que vous signez, puisque vous êtes pas seulement directeur artistique de ce cycle d'orgue, mais aussi compositeur.
Oui, exactement. La création a eu lieu ici à Avignon au mois de mai. Donc de ces deux pièces, ma messe et le Cantique des Cantiques de Pierre Guiral, à l'occasion de l'inauguration de l'orgue italien restauré de la cathédrale Notre-Dame-des-Dons, restauration qui a pris une année et demie, et à l'occasion des fêtes inaugurales, nous avons fait cette création et nous reprenons dans le cadre de ce concert, justement avec l'intervention des deux comédiens, ces deux créations. Donc c'est pour un effectif un peu plus large que simplement l'orgue, il y aura l'utilisation des deux orgues de la cathédrale, un ensemble à cordes, un chœur de femmes et deux solistes vocaux, une soprano et un baryton.
Et tout cela a déjà commencé puisque les premiers concerts ont eu le 10 et vous allez jusqu'au bout du festival le 27.
Voilà, exactement. donc le 27, on termine à nouveau au Temple Saint-Martial, avec là aussi une expérience qu'on avait initiée l'année dernière et que nous renouvelons, c'est-à-dire un ciné-concert. L'année dernière c'était L'Homme qui rit, cette année c'est le célèbre film de Jeanne d'Arc de Dreyer. Là aussi, en lien avec l'univers de Yann Fabre, qui rappelle évidemment tout le lien lié au Moyen-Âge, l'univers de Yann Fabre lié au Moyen-Âge. Donc c'est l'organiste Thierry Esquèche qui improvisera en direct à l'orgue du Temple durant la projection du film. Et en fait, là, on retrouve une pratique qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'évidemment, ces films muets étaient toujours accompagnés de musique et improvisés.
Rarement d'orgue, quand même.
Très rarement d'orgue. C'est une chose qui est plutôt actuelle, je dirais, bien que à l'époque, il y avait des orgues de cinéma, et notamment au Gaumont Palace à Paris, il y avait un très très grand orgue de cinéma, et il y avait de très grands organistes spécialisés dans ce genre-là et qui improvisaient avec tous les effets possibles qu'on pouvait avoir sur l'instrument.
Merci Luc Antonini, je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement, non. Donc se reporter au programme pour tous les détails. Merci beaucoup.
Merci à vous.